J'aimerais ce matin qu'on parle sur le domaine de la personne âgée. Personne âgée, donc ça peut être les parents âgés ou les grands-parents, parce qu'on se rend compte que le temps passe vite et que la jeunesse ne dure qu'un temps. Je discutais avec un enfant il y a quelques années qui me disait, pour lui le temps ça passait pas vite. Alors quand une journée était finie, il disait, une journée de passé, ça fait déjà ça de moins à faire. Comme s'il était débarrassé d'une corvée, vous voyez. Alors qu'on se rend compte que les années, les jours passent vite et que finalement on devrait en profiter davantage. C'est vrai que dans les médias, on se rend compte aussi qu'il y a une sorte de pression, comme quoi il faut paraître jeune, être plus jeune. Ça met en avant la jeunesse. Et d'un autre côté, on peut dire aussi qu'il y a une certaine peur de la vieillesse parce que la vieillesse nous parle du départ et de la mort. Et comme il y a un rejet de la mort et rejet de ces choses, alors les médias, dans notre société, ils mettent en avant l'importance de rester jeune, de paraître plus jeune, comme s'il y avait un combat contre le temps qui passe. Et dans ce combat contre le temps qui passe, nous savons que nous avons perdu d'avance, parce que le temps emporte tout, et le temps nous fait vieillir, et on ne peut pas empêcher le temps qui passe. Donc chaque âge, on va s'en rendre compte par rapport à la parole de Dieu, chaque âge a sa valeur. Et on ne va pas dénigrer ni la jeunesse ni les personnes âgées, mais chacun a ses qualités et chaque époque de la vie peut se vivre dans la paix. J'aimerais voir une première partie, qui est notre attitude envers les personnes âgées. Quelle doit être notre attitude envers les personnes âgées? Et on va voir un premier point. Dans Lévitique, chapitre 19 et verset 32, nous ferons une lecture dans le livre du Lévitique, chapitre 19, verset 32, qui nous montre que nous devons honorer les personnes âgées. Lévitique 19, 32, vous voyez, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Donc ce verset nous montre la haute estime qu'il y a à l'égard des personnes âgées dans la parole de Dieu. Les cheveux blancs, ici, ne sont pas considérés comme quelque chose de négatif, mais au contraire, même on peut dire que c'est quelque chose qui est une valeur pour la personne âgée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir plutôt faire disparaître les cheveux blancs. Et dès qu'il y en a un qui pousse, clic, on essaie de l'enlever, ou alors on a des produits, etc. Mais dans la parole de Dieu, vous voyez, les cheveux blancs, en tout cas, c'est une couronne. C'est marqué au Proverbe 16, verset 31, par exemple, les cheveux blancs, c'est une couronne d'honneur, dit la parole de Dieu. Littéralement, une couronne de beauté, de splendeur ou de gloire. Alors d'autres versions disent une couronne magnifique. Alors si vous regardez comme ça quelques versets de la parole, vous vous rendrez compte que les cheveux blancs, c'est une couronne d'honneur ou un ornement au Proverbe 20, verset 29. Alors j'aime bien ce proverbe parce que vous avez les deux. Vous avez les jeunes d'un côté et les vieillards de l'autre. Proverbe 20, 29 dit « La force est la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. » Vous avez les jeunes et puis les vieillards. Et puis l'ornement, c'est la splendeur, l'honneur, l'éclat. Alors ce qui est intéressant dans ce verset, c'est que les jeunes et les vieux, ils ont des avantages différents selon leur âge. Les jeunes, c'est plutôt la force, l'énergie, la combativité, etc. Et puis les personnes âgées, ben l'expérience. Ils ont un certain recul par rapport aux situations, peuvent avoir une certaine sagesse, etc., liée à leur âge. Donc, les uns, que ce soit les jeunes, ont besoin des autres, des personnes âgées, et les personnes âgées ont besoin des jeunes. D'ailleurs, il y a un chant que parfois on prend qui dit « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». Et c'est ce que nous voulons dans l'Église, qu'il y ait vraiment l'harmonie entre les plus âgés, les plus anciens, et puis les plus jeunes au milieu de nous, bien qu'il y ait vraiment un partage mutuel et une compréhension qu'on a besoin des anciens et que les jeunes ont besoin des anciens et que les anciens aussi ont besoin des jeunes. D'ailleurs, il y a un des commandements, parmi les 10 commandements qui sont cités dans le livre de l'Exode, un des commandements consiste à honorer nos parents. Exode 22 nous dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honorer son père et sa mère. » Qu'est-ce que veut dire le mot « honorer » ? Derrière ce mot « honorer », il y a plusieurs notions très importantes. D'abord, la première, c'est les aimer. Ce sont ceux qui nous ont donné la vie, ce sont ceux qui nous ont aimés les premiers. Et en retour, nous devons bien sûr les aimer. Nous devons les respecter, car les parents, dans les Écritures, sont considérés comme supérieurs aux enfants. Et les enfants doivent le respect, l'estime à l'égard des parents. Et puis enfin, nous devons aussi en prendre soin. Car aussi bien les parents se sont occupés de nous quand nous étions enfants, bien la parole de Dieu nous montre que nous devons veiller à notre tour à leur bien-être quand ils vieilliront et quand ils auront besoin peut-être d'aide et de soutien. Alors ce grand commandement, on dit le cinquième dans Exode chapitre 20 verset 12, est accompagné d'une grande promesse pour montrer que celui qui met en pratique la parole de Dieu, qui honore ses parents, eh bien la Bible dit « afin qu'il prolonge ses jours ». Donc il y a une promesse de longévité, de vie heureuse. Autrement dit, Dieu honore ceux qui honorent leurs parents. Si nous honorons nos parents, eh bien Dieu nous bénit. Et par contre, on verra qu'il y a aussi des conséquences pour ceux qui n'honorent pas leurs parents ou qui désobéissent à ce commandement. On peut citer par exemple Deutéronome 27:16, où il est écrit que celui qui méprise ses parents va s'attirer des malédictions. Deutéronome 27:16 dit « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. » Donc il y avait quand même une mise en garde ici, à ne pas dire du mal, à ne pas maudire, parce que mépriser, c'était quelque chose de très grave dans l'ancienne alliance. Mépriser, c'est considérer quelqu'un comme sans valeur, sans importance, négliger cette personne, faire comme si on la connaissait pas. Alors que dans ce cas-là, il s'agit de nos propres parents. Donc selon la Bible, c'est un grave péché aux yeux de Dieu. Et on peut dire même que celui qui ne respecte pas ses parents ne peut pas dire qu'il respecte Dieu. Et celui qui n'honore pas ses parents ne peut pas dire qu'il honore Dieu. Donc, ça c'est un verset important. Il y en a deux autres. Exode 21:17. Quelqu'un qui maudit son père selon la loi était puni de mort. Exode 21:17. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Et le Proverbe chapitre 20 verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Donc puni de mort. Sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres, ce qui nous montre que les insultes à l'égard des parents, les malédictions, les propos graves à l'encontre de nos parents étaient sévèrement punis dans l'ancienne alliance. Alors, la peine capitale, c'est peut-être un peu fort, parce qu'il est question ici de mise à mort. Hein. Quelqu'un qui insulte, qui maudit, il est dit qu'il sera mis à mort. Alors, c'est vrai que ça paraît... très élevé. On n'a pas d'exemple d'ailleurs de mise en pratique de cette loi, mais en tout cas la loi avait un rôle dissuasif pour montrer l'importance du respect à l'égard des parents. Et ainsi, les enfants ayant connaissance de cette loi, eh bien, respectaient profondément leurs parents et ça avait un impact positif. Donc on se rend compte que la loi était bonne. Deuxième point, on peut dire après les honorer, on a dit il nous faut honorer les personnes âgées. Proverbe 23, verset 22 nous dit qu'il nous faut les écouter. Écouter les personnes âgées. Proverbe 23 dit « Écoute ton père qui t'a engendré et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » C'est vrai qu'une des tentations des jeunes, c'est de croire qu'ils savent mieux que les autres. Et puis ils ont la jeunesse, la fougue, ils ont l'enthousiasme. Et pourtant, on a besoin des conseils des personnes plus âgées. On a besoin d'écouter, de prendre le temps, de considérer leur expérience, parce que ils peuvent nous permettre d'éviter bien des difficultés. Et il y a quelque chose que les jeunes n'ont pas en tout cas, même s'ils ont toutes sortes de qualités, ils n'ont pas l'expérience de la vie. Et ça arrivera en son temps, mais les personnes âgées, ils l'ont. Les personnes plus âgées, ils ont vu un certain nombre de situations difficiles. Ils ont rencontré beaucoup de problèmes déjà, ils ont entendu beaucoup de choses, ils ont vu même des situations dans l'église, etc. Donc ils ont peut-être un recul plus important, ils arrivent à tirer des leçons peut-être davantage que des plus jeunes. Et ils sont à même d'apporter des conseils sages, des conseils à ceux qui sont sans expérience. D'ailleurs, c'est un principe que l'on retrouve pas seulement dans la parole de Dieu, mais qui existe partout. Si on regarde le monde du travail, il y a quelque temps, on recevait deux personnes pour notre chaudière. Et comme c'était la première fois qu'elle était ouverte, le jeune qui était là, il y avait un jeune et un plus âgé. Le jeune, il n'arrivait pas à l'ouvrir. Il y avait quelque chose à tourner. Alors, comme il y en avait un qui était plus âgé, il a cherché dans sa boîte à outils, il a façonné un petit truc et il a réussi à la débloquer. Mais on voit que l'expérience, le jeune ne l'avait pas. Et petit à petit, le jeune, en voyant le plus âgé expérimenté agir, eh bien, il a pris de l'expérience finalement, il a appris aussi. Et puis quand il sera confronté à ce même problème par la suite, il arrivera lui-même à le faire. Et c'est bien qu'il y ait ce principe de un plus jeune qui est avec un plus âgé, plus expérimenté. Et puis c'est un peu la formation. Ça existe partout. Mais la Bible nous dit donc d'écouter, de prendre attention à ceux qui ont vécu avant nous, parce qu'ils ont bien des expériences qui peuvent nous être profitables. Troisième chose qu'on peut trouver dans la parole de Dieu, Proverbe 28, verset 24. Concernant les personnes âgées, il ne faut pas les voler. Celui qui vole son père et sa mère, et qui dit « ce n'est pas un péché », est le compagnon du destructeur. Voler les personnes âgées, voler ses parents. C'est certains qui profitent peut-être de la faiblesse de leurs parents devenus vieux, qui vont gaspiller leurs biens. En plus, en disant « ce n'est pas un péché », c'est-à-dire que eux, ils sont en train d'atténuer leur conscience et de dire en eux-mêmes ben, « ce n'est pas grave, ce n'est pas mal ». Or, la Bible, nous le savons, nous dit que dérober, c'est un péché. Nos parents, a fortiori, bien sûr, de les voler. Alors, quand la parole de dit qu'il se fait le compagnon du destructeur, littéralement, c'est celui qui pille, qui ruine, un malfaiteur. Quelqu'un qui vole ses parents, c'est un malfaiteur. Et les vols étaient bien sûr interdits dans la loi. J'ai rencontré comme cela un jeune homme qui s'était converti. Je sais plus quel âge il avait, peut-être une trentaine d'années quand il s'est converti. Et puis, il s'est fait baptiser. En venant à l'église comme ça, en écoutant les messages, il s'est rendu compte qu'il devait rendre à ses parents tout ce qu'il avait volé. Mais il avait volé, je ne sais pas comment il a fait, mais il avait volé pour une somme énorme. Il avait volé pour environ, je vous dis en euros, 7 000 euros. 7 000 euros comme ça il avait pris. Je me demandais comment c'est possible. Il avait réussi à prendre tout ça. Et les parents ne le savaient pas. Et alors il a fallu qu'il aille... Alors comme il a été touché par Dieu, il a été rendre tout à ses parents. Et merci Seigneur, c'est ce qu'il fallait faire. Parce que celui qui a dérobé, dit la parole de Dieu, eh bien il doit rendre ce qu'il a volé. Alors quand les parents deviennent âgés, peut-être ils sont plus fragiles, plus vulnérables, et puis moins conscients peut-être des réalités matérielles, de la valeur de l'argent. Vous savez que depuis qu'on est passé à l'euro, c'est pas si évident pour les personnes âgées. Alors, il y en a qui ont bien suivi, et puis d'autres qui nous parlent encore en millions d'anciens francs. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un me disait « ça m'a coûté 3 millions ». Oui, 3 millions d'anciens francs, alors il faut traduire, hein, en nouveaux francs puis en euros. Effectivement, quand on parle d'argent, d'anciens francs, nouveaux francs, euros, c'est pas si évident pour les personnes âgées. Donc certains, malheureusement, vont en profiter, des enfants mal intentionnés, des jeunes qui veulent l'argent, et c'est ainsi que la Bible déclare, celui qui le fait, eh bien c'est un péché. Faut pas dire c'est rien, c'est pas normal. On ne peut pas comme ça profiter de ses parents, les voler. Quatrième chose, concernant les personnes âgées, ne pas les réprimander, mais les exhorter. Ça, c'est un conseil de Paul à Timothée, qu'on trouve dans 1 Timothée chapitre 5, versets 1 et 2, où Paul déclare à Timothée, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Donc ici, il y a un conseil important. Un conseil, d'ailleurs, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez un plus âgé expérimenté, on va dire c'est l'apôtre Paul, et vous avez un plus jeune, on va dire quelqu'un qui démarre dans le ministère, Timothée. Et on voit que Paul va avoir comme ça, par son expérience, par son apport, eh bien, un rôle de formation vis-à-vis du plus jeune, jeune Timothée. L'apôtre, il est maintenant âgé quand il écrit. On peut dire qu'il a vécu toutes sortes d'expériences douloureuses quand on sait qu'il écrit dans la même épître « Certains, tous m'ont abandonné, Démas m'a quitté pour le siècle présent ». Il a vécu donc des déchirements, des souffrances, on peut dire, dans l'œuvre de Dieu. Et puis Timothée qui est dans la fougue de la jeunesse, un jeune serviteur qui bien débute et qui a besoin de toute l'aide du Seigneur et des conseils des anciens. Et Paul va lui demander d'agir avec tact et considération à l'égard des personnes âgées. Il va lui dire, voilà, pour les personnes âgées, tu vas pas parler durement, tu vas pas les reprendre sévèrement, tu vas les traiter avec tact, avec déférence. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on doit toujours être d'accord, ça veut dire que les opinions, on peut les exprimer d'une certaine manière. Cela ne veut pas dire que c'est la personne âgée qui va toujours avoir raison non plus. Mais il va y avoir une complémentarité, une discussion. En tout cas, traiter la personne âgée avec respect et bienséance. C'est ce que Paul enseigne et ce qui est valable pour l'Église. Donc, les jeunes ne doivent pas vivre en opposition ouverte avec les anciens, en revendiquant certaines choses, mais dans la concertation, le dialogue, l'amour fraternel, eh bien, dans la paix, toutes ces choses, toutes les choses peuvent se régler. Les jeunes comme les vieux, je crois que les uns ont besoin d'apprendre des autres. On ne peut pas dire que les plus anciens, ils savent tout non plus. Ils ont encore besoin d'apprendre. Et puis, les jeunes ont beaucoup de choses à découvrir. Donc, les anciens ont toujours besoin des plus jeunes pour leur motivation, pour leur élan, pour leur énergie. Et puis, les plus jeunes ont besoin des anciens pour les conseils, pour la sagesse, pour tout ce qu'ils peuvent apporter, qui est nécessaire. Ne pas les réprimander, les exhorter. Cinquième attitude, en prendre soin. On est toujours dans le même passage, en fait, 1 Timothée chapitre 5, et un peu plus loin, vous avez ce verset qui dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. » Alors là, vous avez ceux de sa famille. Vous avez deux choses dans ce verset. Qui n'a pas soin des siens. Alors les siens, c'est la famille au sens large, on va dire. Mais il est dit principalement de ceux de sa famille, c'est-à-dire littéralement ceux qui vivent sous son toit. Ça peut faire référence aux enfants, mais ça fait référence aussi dans le contexte, d'ailleurs, aux personnes âgées. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas rare à l'époque que les parents devenus vieux, il y en a un qui est veuf, par exemple, et il était pris dans la maison des enfants. Donc il vivait sous le même toit que ses enfants. Et c'est d'ailleurs le cas dans le contexte du verset. Si vous lisez tout le passage du chapitre 5, vous verrez qu'il est question des veuves. Des veuves, donc notamment, dont on doit prendre soin. Alors Paul fait la distinction dans le contexte entre deux sortes de veuves. Il y a des veuves, premièrement, qui peuvent être aidées par leur propre famille. C'est ce que Paul dit. Ils ont encore leur famille, donc c'est la famille qui... Le principe, c'est cela. C'est que la famille, les enfants, doivent rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu eux-mêmes dans leur enfance. Donc, Paul dit, cela est agréable à Dieu, cela est normal. Maintenant, la deuxième sorte de veuve qui existe, c'est celle qui n'ont plus de soutien, qui a personne pour les aider. Et là, Paul dit, bien, c'est l'Église qui devra prendre le relais de la famille. Mais en premier lieu, le principe, c'est la famille qui intervient. Et on peut penser qu'à l'époque, on sait qu'il n'y avait pas de système d'aide organisé comme on a aujourd'hui avec la retraite, avec la sécurité sociale. Tout se passait par le biais de la famille. Donc nous devons prendre soin des nôtres, même dans leur âge avancé, veiller à ce qu'ils ne manquent de rien, comme dit la parole, nous devons prendre soin de notre famille. Alors on peut penser aux enfants et aux personnes âgées. Celui qui néglige les parents, dit ce texte, il ne peut pas se considérer comme un chrétien authentique. La Bible dit qu'il est pire qu'un infidèle. Donc, il ne peut même pas prétendre avoir la foi parce que ses actes en eux-mêmes contredisent la parole de Dieu. Quand il est dit qu'il est pire qu'un infidèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul prend comme principe que ce sont des choses naturelles, que les enfants qui vont aider leurs parents, ce sont des choses normales quand leurs parents sont devenus vieux. Ce n'est pas quelque chose de spirituel ou d'extrêmement énorme, c'est quelque chose, il dit, de normal. Et ça se voit d'ailleurs dans le monde non chrétien. C'est ce qu'il explique, il dit, voilà, si vous n'arrivez pas à mettre ça en pratique, vous ne pouvez même pas dire que vous êtes chrétien, parce que les non chrétiens, naturellement, ils font ces choses-là. Donc ce que Paul veut mettre en valeur, c'est qu'en tant que chrétien, nous devons, logiquement, bien nous occuper de ces personnes âgées. Deuxième partie, peut-être maintenant, avec toute... on a vu notre attitude, bien sûr, à l'égard des personnes âgées. Peut-être voir quelques qualités qui sont mentionnées dans la Bible concernant les personnes âgées. Les qualités. Premièrement, on va lire un texte dans Tite, chapitre 2, verset 5. On va voir qu'une des qualités des personnes âgées, c'est qu'elles sont des modèles. Ce sont des modèles pour les jeunes. Et vous avez une grande liste de qualités ici. Tite chapitre 2, et le verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Alors, on va passer en revue ces qualités qui sont mentionnées concernant les hommes, donc il y en a plusieurs. Il est dit que les personnes âgées, donc elles doivent être sobres. Un modèle dans la sobriété, c'est-à-dire dans la maîtrise de soi, et ça fait référence ici à la consommation d'alcool, la sobriété et la modération. Alors, nous connaissons tous les ravages de l'alcool, et bien sûr, la parole de Dieu nous dit de faire attention. Les personnes âgées sont des modèles en ce sens. L'alcool, ça avilit, ça nous fait perdre contrôle de nous-mêmes. Et un chrétien, lui, il est modéré dans ces choses-là. Il ne va pas se saouler, il ne va pas boire plus que de raison. Il va faire attention. Ce n'est pas interdit de boire du vin, bien sûr, ou de l'alcool, mais avec modération, avec équilibre, avec sagesse. Deuxième qualité qui est mentionnée, être honnête. Autre traduction, être digne, c'est-à-dire sérieux, digne d'honneur. Voilà comment... Et la personne âgée, c'est par son comportement honnête, c'est par son comportement irréprochable que la personne âgée va s'attirer la considération des autres. Aussi, elle doit être modérée. Alors ce terme, ça évoque la prudence et la réflexion, puisque c'est lié à ses années d'expérience, effectivement. Ayant rencontré beaucoup de situations, étant plus modérée, plus équilibrée peut-être que certains jeunes... c'est-à-dire que la personne âgée va peut-être être moins excessive ou moins expéditive dans un jugement que les jeunes. Elle va avoir plus de recul, de sagesse. Donc modérée dans son approche. Saint dans la foi, dans l'amour et dans la patience. Pourquoi il est marqué qu'elle doit être saint, c'est-à-dire saine, c'est-à-dire que c'est l'opposé de celui qui est malade, quelqu'un qui est bien portant. Vous voyez, une personne âgée, elle doit être bien portante dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Elle ne doit pas être faible, fragile ou instable. Donc le temps va agir d'une manière positive. Soit le temps, ça agit mal, c'est-à-dire ça va nous aigrir, ça va nous rendre malheureux, loin du Seigneur, soit le temps va agir d'une manière positive. Et nous qui sommes chrétiens, eh bien, le temps va être au bénéfice, ça va être tout bénéfice pour nous, et ça va nous rendre plus sains dans ces choses-là. La personne âgée doit toujours vivre dans la foi simple comme les enfants. D'ailleurs, En côtoyant les personnes âgées, on se rend compte qu'il y a un parallèle entre les enfants et les personnes âgées. Parce que quelque part, les personnes âgées, je ne dis pas retombent en enfance, mais elles deviennent dépendantes. Sur la fin de leur jour, dans les dernières, quand elle est très âgée, ben plus elle vieillit, plus elle devient dépendante, comme un enfant finalement. Et il faut s'occuper d'elle, et il faut vraiment en prendre soin, etc. Donc il y a cela, comme le Seigneur le dit, il nous faut avoir la foi comme un enfant, tout simplement. Donc, cette foi simple, il l'a conservée. L'amour, il doit le garder, l'entretenir, parce que dans la durée, vous savez, il y a toujours des gens qui sont tout feu, tout flamme, quelques années de leur conversion, puis après c'est fini. Alors que la personne âgée, elle doit entretenir cet amour et ce feu dans le cœur pour le Seigneur, et que cet amour soit toujours plus fort, un amour toujours plus grand pour Dieu. Et puis la patience, évidemment, la patience qui se développe au fil du temps, c'est-à-dire que la personne âgée, elle sait davantage attendre avec confiance l'intervention de Dieu, elle a vu Dieu agir, elle sait que Dieu agira, elle a la foi, elle a la confiance en Dieu, elle est patiente, voilà. Ça, c'est pour les hommes. Et puis, dans le même passage, vous avez les personnes âgées, mais les femmes qui sont évoquées. Alors, Paul dit, eh bien, que ces personnes âgées, elles aient un extérieur qui convient à la sainteté. C'est-à-dire que Paul met en avant l'impact spirituel à l'intérieur du cœur qui va se voir sur l'extérieur de la personne, non seulement sur sa tenue, mais sur son comportement, parce que l'extérieur évoque les deux choses. Et il y a plusieurs passages, on n'a pas le temps de les lire, mais qui évoquent la tenue vestimentaire, les bijoux, la coiffure, etc., qui doit être sobre. Et donc, ça fait référence à cela. Paul est en train de dire que la personne âgée, elle soit à l'intérieur, véritablement sainte, et ça se verra dans son comportement, dans ses vêtements. Et puis, deuxièmement, qu'elle ne soit pas médisante. La femme âgée ne doit pas... La femme âgée doit maîtriser ses propos. D'ailleurs, c'est le mot « diabolos » qui est utilisé ici. Si vous l'avez sous les yeux, titre 2, quand il est dit qu'elle ne soit ni médisante, etc., c'est un mot très fort. Ça signifie littéralement « calomnie ». C'est-à-dire dire du mal de quelqu'un dans le but de lui nuire. Donc c'est grave. Et une personne âgée ne doit pas calomnier, bien sûr. C'est le diable qui inspire la calomnie, et un chrétien ne peut avoir aucune communion avec la calomnie, bien sûr. Pareil que pour l'homme, il est question du vin, dont il est dit qu'elle ne doit pas abuser du vin, pour les mêmes raisons que pour l'homme. Et puis enfin, la femme âgée doit enseigner les plus jeunes. Alors ça, c'était quelque chose qui était peut-être davantage pratiqué à l'époque, que les plus anciennes, eh bien, prenaient les plus jeunes femmes, en quelque sorte en formation, pour leur expliquer certaines choses par rapport à la maison, par rapport à leur mari, etc. Bien souvent, elles n'osent peut-être plus le faire. Puis d'autre part, les plus jeunes considèrent qu'elles n'ont pas forcément besoin non plus des conseils des plus anciens. Mais en tout cas, dans la parole, si vous lisez ce passage, on voit que les personnes plus âgées avaient un rôle d'aide et de formation à l'égard des femmes plus jeunes. Deuxième point, toujours dans les qualités des personnes âgées, après un modèle, la sagesse. Là, on peut lire un texte dans Job chapitre 12 et au verset 12, qui nous montre la sagesse liée à l'âge. Job chapitre 12, verset 12, dit ceci. Dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie, l'intelligence. Dans les vieillards se trouve la sagesse. Alors, on peut dire qu'il s'agit ici d'une sagesse naturelle. La sagesse qui vient avec le vécu, parce que, étant devenu vieux, la personne a été confrontée à toutes sortes de situations difficiles, elle a une connaissance de la vie, elle a une expérience, ça c'est indéniable. Toutefois, la Bible fait une distinction entre la sagesse humaine et la sagesse spirituelle. La première, c'est-à-dire la sagesse humaine terrestre, elle vient avec les années, avec l'expérience, avec le temps. Mais la deuxième, la sagesse spirituelle, elle vient de notre communion avec Dieu. Ainsi, on peut dire que la Bible ne se contredit pas lorsqu'elle dit, par exemple, Job 32,9, « Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. » Parce que là, il est question de la sagesse qui vient de Dieu. Et cette sagesse-là ne vient pas dans le nombre des années, elle vient de notre relation avec Dieu. Aussi bien on peut dire que quelqu'un de jeune peut avoir plus de sagesse spirituelle qu'une personne plus âgée sur le plan physique, parce qu'il aura davantage de communion avec Dieu. Alors on comprend la différence entre la sagesse qui est liée à l'expérience de la vie et la sagesse qui vient de Dieu. Mais les deux sont importantes, mais voyez, elles sont indépendantes l'une de l'autre. On peut avoir l'une et pas l'autre. Et c'est important, bien sûr, en vieillissant, d'avoir les deux types de sagesse. Troisièmement, les personnes âgées, une autre qualité qu'ils ont, qui est mentionnée dans le Deutéronome 32 et au verset 7, ils ont la mémoire du passé. Deutéronome 32:7 dit « Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération, interroge ton père et il t'apprendra, tes vieillards et ils te diront. » On se rend compte que les personnes âgées donc sont un trésor d'histoire, ils connaissent beaucoup de choses du passé, et c'était particulièrement vrai à l'époque où il n'y avait pas d'écrit tellement, c'était beaucoup la tradition orale, donc on venait écouter les personnes âgées raconter les choses du passé. Et c'est pour ça que ce verset est là, pour dire que bien les personnes âgées devaient transmettre toutes les choses de Dieu, comme cela à leurs enfants. C'est toujours vrai dans les sociétés à transmission orale, je pense à, par exemple à cette citation de l'écrivain Amadou Amteba à l'UNESCO en 1960 qui a déclaré « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. » Pour montrer que bien c'est tout un patrimoine qui s'en va parce que il avait une connaissance, un savoir, des choses qui partent comme cela. Alors, nous naissons dans une certaine époque avec certaines choses qui existent autour de nous. Mais nous ne savons pas toujours les circonstances qui ont amené cette époque, tandis que nos aînés, ils ont vécu avant nous, et ils peuvent ainsi nous faire partager ce qu'ils ont connu. Les anciens sont là pour informer les jeunes du passé, et on se rend compte d'une chose, c'est ce qui peut nous apparaître nouveau, et la Bible le dit, ce qui peut nous apparaître nouveau a déjà existé. C'est écrit dans Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9, « Il n'y a rien de nouveau, dit la Bible. » Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et ce qui a existé, ce qui existe a déjà existé, etc. Et on se rend compte que donc, sur ce plan-là, les personnes âgées, bien, ont une connaissance, et il nous faut les consulter et profiter de leur vécu. Ils ont la mémoire du passé. Quatrième chose, quatrième qualité, très importante, la transmission spirituelle. Au psaume 71 et verset 18. Il est écrit « Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. » La blanche vieillesse, ça nous parle d'un âge avancé. Cette personne qui s'exprime est plus proche du départ vers l'éternité qu'un plus jeune. Et son souci premier, c'est de ce qu'elle va laisser à la génération présente et à la génération qui va venir derrière. Et ça doit être aussi le souci des personnes âgées, c'est de se dire, ben, qu'est-ce que je vais transmettre? Qu'est-ce que je vais laisser? Qu'est-ce que je vais communiquer à cette génération pour que aussi ils entendent parler des merveilles de Dieu? C'est important de faire connaître ces choses. Alors le psalmiste évoque premièrement un sentiment de crainte qu'il a. Il dit, ne m'abandonne pas, ô Dieu, parce que la personne âgée, elle se sent diminuée, elle se sent parfois inutile, elle connaît certaines angoisses liées à son âge aussi. Bien sûr, l'approche de la mort, etc. Donc, c'est une crainte humaine qu'il exprime. Mais nous savons que Dieu ne nous abandonne pas, même quand nous sommes dans l'âge avancé. Mais avant de quitter cette terre, son dernier souhait, c'est de dire « Donne-moi la force, Seigneur, afin que je témoigne de ta grandeur. » Son dernier souhait, c'est vraiment de transmettre toutes ces valeurs spirituelles qu'il a bénéficié ben, pour que d'autres les connaissent. Et c'est le désir de tout chrétien responsable qui aime l'œuvre de Dieu, mais que Dieu nous donne cette force aussi, même quand nous avançons en âge, de transmettre et de faire connaître les merveilles de Dieu. On va voir une dernière partie maintenant concernant quelques promesses. Les promesses pour les personnes âgées. Alors, on peut lire une première promesse au psaume 92 et verset 13. les promesses pour les personnes âgées. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. La promesse, c'est qu'elle va porter du fruit dans sa vieillesse. Donc, le Seigneur va permettre qu'elle continue à se développer et aller de l'avant. À l'époque de la vie, peut-être, où la société va dénigrer, va rejeter les personnes âgées en considérant qu'elles ne sont pas rentables ou qu'elles sont inutiles, bien la Bible nous montre qu'elles ont toute leur place et qu'elles ont toute leur valeur et qu'elles peuvent continuer à porter du fruit. Ça, c'est important. Lorsque nous sommes chrétiens, il n'y a pas d'âge pour porter du fruit. Pas que les jeunes qui vont porter du fruit, les personnes âgées vont en porter aussi. Alors ne dites pas, comme parfois je l'entends, « Je suis trop âgé, je ne peux plus rien faire. » C'est pas vrai. On peut toujours prier, on peut toujours parler du Seigneur, on peut toujours faire quelque chose pour le Seigneur. Je pense à cette prophétesse Anne, dans le Nouveau Testament. Elle avait 84 ans, et la Bible dit qu'elle continuait à servir Dieu, jour et nuit dans le temple, par la prière, par le jeûne. Elle avait toute une activité pour elle, et Dieu lui a fait grâce de voir Jésus enfant. Donc cette prophétesse n'a pas dit « Moi je suis trop vieille, c'est pas la peine que je continue à prier, à faire quoi que ce soit. » Elle a dit jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à son dernier soupir, elle voulait entretenir sa relation avec Dieu, et on peut dire qu'elle a porté du fruit jusque dans la vieillesse. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Donc voilà un bel exemple. Deuxième chose qu'on peut dire concernant cette troisième partie, c'est deuxième promesse, psaume 103, verset 5. Les personnes âgées sont rassasiées de bien. Psaume 103, verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Voilà ce que nous dit l'Éternel. Il est plein de bonté, il nous veut dans une heureuse vieillesse, et il y a un contraste ici avec les non-croyants, ceux qui ne veulent pas de Dieu, qui sont athées, qui partent vers l'inconnu, qui vivent toutes sortes de d'aigreur et de sentiments de lassitude parce qu'ils vont quitter cette terre où ils ont tout misé. Quel contraste avec le chrétien qui sait que lui, quand il va mourir, c'est la rencontre avec Jésus, la rencontre avec Dieu. Nous savons que nous laissons tout, c'est vrai, mais nous savons que nous allons dans l'éternité avec Jésus. Et cela nous rassure, nous console. La Bible nous dit aussi que Dieu va nous faire rajeunir comme l'aigle, nous faire rajeunir. C'est-à-dire qu'il nous donne une jeunesse nouvelle. On peut penser à Caleb, qui était âgé de 85 ans, dit la parole de Dieu, et dont il est dit qu'il était encore vigoureux, plein de force. Et lorsqu'il y a encore un défi à relever, il dit, il dit à Josué, « Donne-moi cette montagne afin que j'aille la conquérir. » On voit que sa jeunesse a été renouvelée. Parce qu'à cet âge-là, effectivement, on n'a pas forcément la vigueur et le tonus qu'ont les plus jeunes. Le Seigneur peut le faire, en tout cas. Il y a une promesse ici. Dieu rassasie de bien notre vieillesse et nous fait rajeunir comme l'aigle. Et enfin, troisième point, une dernière promesse, Ésaïe 46, et au verset 4, il y a une autre réalité ici qui nous rappelle que Dieu sera toujours le même, même dans notre vieillesse. Jusqu'à votre vieillesse, dit la Bible, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Ceci nous montre que Dieu n'abandonne pas la personne âgée, mais jusqu'à notre départ, Dieu est fidèle. Et il soutient tout le monde, tous les croyants. Il nous promet sa présence jusqu'à ce moment du départ. C'est vrai que à un moment donné, on quittera cette terre. Je me rappelle de cette anecdote de... c'est Corrie ten Boom qui demande à son papa. Elle dit à son papa, c'est quoi mourir, papa? Et son père lui dit, il lui prend cette illustration, c'est... quand on prend le train pour aller à Amsterdam, quand est-ce que je te donne le billet de train ? Et la petite lui répond, au moment du départ. Eh bien, le père de Corrie lui explique, eh bien, pour la mort c'est pareil, Dieu mettra en nous la force qu'il faut au moment où nous devrons quitter cette terre. Et nous serons prêts à partir dans l'éternité. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, la Bible dit, je serai le même jusqu'à votre vieillesse. Dieu nous accompagne tout au long de notre vie. Que son nom soit béni. En conclusion, avant de prier, concernant les personnes âgées, elles ont une grande valeur aux yeux de Dieu, comme nous l'avons vu dans sa parole. Et nous devons les considérer, les aimer, tirer profit de leurs conseils. On ne veut pas les mettre de côté. On a besoin des personnes âgées et on veut véritablement mettre la parole de Dieu en pratique et les honorer et respecter. Alors prions le Seigneur. On peut prier particulièrement pour tous nos cheveux blancs, tous ceux qui sont âgés au milieu de nous, que Dieu renouvelle leur force, leur fasse du bien et que Dieu les bénisse. Ils sont pour nous précieux, bien sûr. Et nous voulons véritablement louer le Seigneur pour la présence des personnes âgées et que Dieu leur fasse grâce encore. Merci pour ta parole qui nous montre que tu t'intéresses, Seigneur, à tous les âges de la vie, que tu prends soin de chacun, et particulièrement pour ces personnes âgées qui ont tous vécu cette expérience, te prions de les bénir, de leur donner tout ton conseil, ta sagesse, et de permettre qu'ensemble nous formions une famille unie et heureuse sous ton regard. Nous voulons, Seigneur, les honorer en ton nom, les bénir et nous réjouir de leur présence au milieu de nous. Seigneur, nous te prions aussi de les fortifier dans leur âge avancé, de les garder de tout mal, de toute maladie et de permettre qu'il y ait une bonne harmonie entre les plus anciens et les plus jeunes, que par ta grâce nous vivions ces temps d'unité, d'amour réciproque, de compréhension. Comme tu le désires, Seigneur, une famille unie, une famille heureuse sous ton regard. Merci de bénir le reste de cette journée et à toi revient toute la gloire. Amen.